Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Christophe Pallais.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour à Catherine, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Gérard Carrérou.
Bonjour.
Bonjour.
Nous ne vous parlerons pas de politique en cette veille de second tour pour cause de trêve électorale, mais l'actualité internationale est bien chargée. Nous allons donc vous décrypter les derniers développements de la guerre en Ukraine, nous arrêter sur la situation militaire avec les livraisons d'armes des Occidentaux aux Ukrainiens. La France, par exemple, a annoncé hier qu'elle allait livrer entre autres des canons César. Les conséquences économiques en Europe et puis au Moyen-Orient. Le boycott des artistes et des sportifs russes qui s'étend avec Wimbledon. Et puis nous évoquerons Boris Johnson et le Partygate, le scandale des fêtes en bon français. Le Premier ministre britannique qui s'accroche à son poste, mais qui n'a jamais été aussi proche de prendre la porte. Vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà le programme. Vos grandes voix sont dans les starting blocks. C'est parti. Alors la guerre en Ukraine entre demain dans son deuxième mois. L'un des objectifs déclarés hier à un haut gradé de l'armée russe, c'est d'établir un contrôle total sur le Donbass. Le but, assurer un couloir terrestre vers la Crimée. Puis l'un des nouveaux objectifs russes, c'est de mettre en place maintenant un couloir vers la Transnistrie, hein, la région qui est la région séparatiste de Moldavie. Ça inquiète les Moldaves qui ont d'ailleurs convoqué l'ambassadeur de Russie. On se dirige vers quoi dans le Donbass, Charles Villeneuve ? Une guerre sans fin ?
C'est une guerre qui peut durer, en effet, à cause du relief du Donbass, qui est assez plat. C'est une guerre le Donbass constitue un champ de bataille décisif. Et c'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine a nommé pour conduire cette bataille le plus impitoyable de ses généraux, Alexandre Dvornikov, qui a éprouvé ses méthodes meurtrières en Syrie, ce qui lui a valu le nom du boucher d'Alep, qui est la deuxième ville et qui est la ville la plus importante sur le plan économique de Syrie. On connaît ses méthodes, on sait comment, en gros, il va conduire cette bataille à coups de canons d'artillerie, puisque c'est la reine des batailles de l'armée russe, c'est l'artillerie, et ensuite envoyer un rouleau compresseur de chars. Et l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Poutine a demandé aux derniers résistants de Mariupol, le port sur la mer d'Azov, de se rendre, c'est parce qu'ils ont besoin d'infanterie, parce que des chars ont besoin d'infanterie pour occuper le terrain qu'ils ont conquis. Sinon, ils le laissent évidemment à l'armée ukrainienne. Il faut savoir que l'armée ukrainienne mène une guerre d'esquive, très très souple, de se déplaçant en permanence, et qu'il n'est pas certain que les Russes emportent la bataille du Donbass.
Gérard Carrérou, concernant Mariupol, vous vouliez réagir ?
Non, je ne voulais pas réagir sur Mariupol, je voulais réagir sur quelque chose qui est beaucoup plus important.
Merci Gérard.
Non, mais beaucoup plus important pour et qui suit ce que vient de dire Charles. Bien Parce sûr. Qu'on parle beaucoup depuis hier, depuis que les Russes ont annoncé, proclamé leur nouveau but de guerre. Effectivement, le Donbass, le Sud, etc. Mais il y a quelque chose dont on ne parle pas et qui m'intriguait depuis 2-3 jours, c'est les buts de guerre des Occidentaux. Or, je suis en mesure de vous donner une information, on verra, on la vérifiera ou on la vérifiera pas au cours des prochaines semaines, une information de source militaire et de source américaine.
Oui.
Vous savez que j'ai quelques contacts. Ce n'est pas mon fils ni mes petits-enfants qui m'ont donné cette information, hein. Ni ma fille. Bon. Mais je connais du monde. Secret des sources. Les Américains, aujourd'hui, se disent, je dis les Américains, hein, je ne veux pas vous attribuer à Joe Biden, mais se disent qu'il y a eu un tournant de la guerre avec le navire amiral qui a été coulé.
Ouais,
et à partir de là, l'idée, jusqu'à présent, les buts de la guerre, c'était essayer de sauver, de protéger l'Ukraine d'une annexion par les Russes, et éventuellement après de l'aider à se reconstruire. Ça, c'était ça, les buts de guerre occidentaux. Depuis que le navire a été coulé...
Enfin, l'Occident n'est pas vraiment en guerre.
Les Occidentaux se sont dit, ils sont vulnérables. Il n'y a pas eu que ça. Ça, c'est le couronnement, si vous voulez, c'est les cerises sur le gâteau de tous les problèmes que les Russes ont eus depuis 2 mois. Et ils se sont dit, maintenant, au fond, Les Ukrainiens ont fait la démonstration qu'ils se sont admirablement battus, qu'ils savent utiliser les nouveaux matériels qu'on leur a donnés avec nos instructeurs depuis 8 ans, notamment ceux qui étaient sur le terrain.
Et on va continuer de les former.
On va donc, et c'est ce qui explique que simultanément, vous avez pu voir hier et avant-hier, l'annonce discrète, relativement discrète, de l'envoi à la fois par les Américains de canons de 100... Et je ne peux pas vous les décrire parce que je ne suis pas un artilleur de profession, mais des canons de 155 à longue portée. Et si vous voulez, ce n'est pas les canons de la Deuxième Guerre mondiale ou les canons de Navarone. Ce sont des canons extrêmement précis. Et dans le même temps, les Français...
Les Howitzers, hein, c'est ça,
Charles, et les Français... Mais Charles pourra donner sans doute des précisions. Et les Français, dans le même temps, ont fait effectivement part de l'envoi de 8 canons, également des canons de 155, aussi à longue portée, 40-50 km, qui sont les plus 40 km, qui sont les plus modernes aujourd'hui de l'armée française.
Les
fameux canons César. Ce n'est pas César et Rosalie, là. Hein, c'est César, ce sont des canons. Non, et il y a une simultanéité entre... Ça veut dire que ce qui était une guerre défensive des Occidentaux, une guerre de protection, peut très bien être en train de devenir une guerre où on se... Je ne dis pas que les Ukrainiens vont la gagner, mais je dis que d'après l'analyse de la guerre des 2 premiers mois, ils se disent qu'il y a une possibilité que ça ne soit pas une défaite devant les Russes, mais que peut-être il y a une chance, sinon de gagner militairement, au moins de faire match nul sur le terrain.
Oui, pour aller dans le sens que tu viens de dire, c'est à l'initiative du Pentagone, c'est que mardi, en Allemagne, vont se réunir déjà 20 pays de l'OTAN ont donné leur accord, les ministres de la Défense, pour voir comment on organise la défense de l'Ukraine, leur donner ce qu'il faut pour se combattre. Parce que la grande différence qu'on note dans l'approche maintenant entre les Russes et les Ukrainiens, c'est que les Russes vont au combat, enfin, sauf Poutine, mais en tous les cas, les militaires en traînant les pieds, et que les jeunes ne veulent pas s'engager, et qu'il y a beaucoup de morts, on dit 20 000, et c'est beaucoup. D'ailleurs, on verra sur le défilé du 9 mai comment, qui ont fait défiler, parce que ça fait beaucoup de monde en moins. Et donc, et ils savent que côté ukrainien, il y a une force qui est incroyable, c'est l'envie de gagner et la sûreté même de finir et de garder leur indépendance et de gagner sur les Russes. Et donc, maintenant, tout le monde entoure cette Ukraine et donc cette réunion va mettre à jour tout ce qu'on peut déployer pour aider le pays.
Ce qui est important par rapport à ce qu'a dit Gérard et Catherine, c'est la simultanéité, si vous voulez, des combats de l'avant. On appelle ça le fighting spirit. Les Anglais appellent ça le fighting spirit, l'esprit de combat des Ukrainiens. Mais en concernant les canons César, qui sont des canons d'extrême précision qui ont participé à la chute de Mossoul. Ces canons ont besoin de formation.
Or, et en Afghanistan aussi.
Oui, et 40 officiers ukrainiens débarquent à Paris pour être formés à l'utilisation de ces canons.
Au camp de Canjouer.
Voilà.
À compter d'aujourd'hui, a priori.
Oui, absolument. Et c'est assez important, d'autant qu'on accompagne tout cela d'une livraison supplémentaire de 1000 ans, c'est-à-dire de l'arme anti-char avec les javelines américains les plus précis et les plus dévastateurs pour l'arme blindée russe.
D'où tu arrives à la question que je voulais poser. Où commence la co-belligérance?
Oui, bien sûr.
C'est la question. C'est-à-dire, c'est la question. Oui. À mon avis, elle a commencé. Oui. Alors, si elle a commencé, au fond, Poutine fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Parce que le jour où il s'en apercevra, il pourra peut-être monter, l'escalade, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme sorte d'accord entre, finalement, occidentaux et russe pour que tout le monde ait l'air de fermer les yeux. On sait tous que l'Amérique a aidé financièrement et militairement le Donbass et a formé des gens depuis 2014.
Depuis 2014,
ce qui est énorme. Déjà, effectivement, les Russes n'ont pas dit grand-chose. Là, maintenant, à un moment donné, si même la France se met à annoncer ses canons et ses armes, Moi, je crains qu'on bascule, ou alors il y a un accord que je ne comprends pas et que je ne connais pas.
Pour l'instant, quand on dit les Américains se demandent si le monstre russe n'est pas plus faible qu'on ne le croit et fait plus peur, mais d'un autre côté, ils continuent à montrer leurs muscles. D'ailleurs, pour son opinion, Poutine, il y a des émissions à la télévision où on voit une conversation entre des journalistes hommes, qui sont des journalistes affiliés au régime, et puis un interlocuteur, et je n'ai pas su qui il était, qui disait « Mais nous, avec une bombe, on peut détruire New York, oui, et tout le monde sait ce qu'il a fait. »
Ça les fait rire. Oui,
ça les fait rire, donc pour montrer qu'ils se sentaient plus forts. Mais évidemment, ils faisaient de la communication intérieure pour montrer au pays que vraiment la situation est bien tenue, qu'on dénazifie un pays qui était vraiment toxique à cause de... Voilà. Et voilà, c'est... En ce moment, c'est deux communications qui se font face.
Et je voudrais répondre à la question, enfin essayer de répondre de manière très courte à la question de Michel.
Oui, c'est ça.
La question de Michel,
je voulais moi aussi répondre à la question.
Et puis après, on sera obligé de marquer une
petite
pause.
Tout le monde a constaté effectivement que nous sommes entrés dans une époque de co-belligérance avec l'envoi d'un certain nombre de matériels qui ne sont pas simplement des matériels de défense. Au début, on disait matériel de défense, etc. Ce sont des matériels d'attaque.
Ce sont des armes lourdes.
D'offensive et des armes lourdes. Alors, pourquoi ? Là, moi, je pense que... Alors là, pour le coup, ce n'est pas une source, c'est simplement une sorte d'analyse. Je pense que les Russes, avec les désastreuses de 8 semaines de guerre qui ont fait constater au monde entier leur déficience importante sur tous les plans, je n'y reviens pas, on en reparlera peut-être après, mais les empêche de dire ce qu'ils auraient pu dire en d'autres circonstances, c'est-à-dire... attention, au moindre obus américain ou au moindre canon français qu'on va trouver, on considérera que c'est l'escalade. Ils ne sont plus probablement eux-mêmes en état de faire cette menace, de dire attention à vous, ça va vous tomber sur la figure. Je pense que c'est ça l'interprétation.
Eh bien, on va marquer une première pause. Vous voyez que le débat fourmille de questions. On y revient tout de suite dans les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Christophe Pallais.
La suite des grandes voix avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine et Michel Cotta. On parle ce matin de la guerre en Ukraine. Vous l'entendiez, l'aide fournie à l'Ukraine peut s'avérer déterminante pour la suite des batailles dans le Donbass. Est-ce que ce n'est pas donc une co-belligérance qui ne dit pas son nom, Charles Villeneuve ?
Mais tout à fait. De toute façon, moi, je crois qu'on est rentré avec la livraison des armes dont on a précisé, si vous voulez, le matériel. Tout à l'heure, tous ensemble, je crois que les Russes ont répondu à cette menace. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous en avions parlé, le télégramme diplomatique donné à l'état-major, justement, américain à Washington, et pas seulement à Washington, aussi à Norfolk, etc., dans toutes les bases aéronavales, sont au courant parfaitement du fait que les Russes ont dit de manière très précise que tous les convois de livraison d'armes des Occidentaux seront interceptés et frappés s'il le faut. Et ce à quoi le président des États-Unis a commandité en quelque sorte son directeur de la CIA, William Burns. Il ne faut pas oublier que William Burns est un diplomate professionnel de haut niveau qui a servi autant les démocrates que les républicains et qui est allé dire devant la Chambre des représentants, devant une commission d'enquête aux députés américains, qu'il était impossible d'accepter qu'une grande puissance puisse digérer, avaler un plus petit pays simplement pour l'avoir décidé sous des prétextes historiques. C'est très précis. Et qu'ils empêcheront, en quelque sorte, c'est ce qu'il a fait comprendre, cette captation, en quelque sorte. Et donc, à partir de là, c'est vrai qu'on commence à tangenter, si vous voulez... je dirais, le fait que les Russes vont considérer que les Occidentaux sont de plein pied dans le conflit. Alors maintenant, là où je suis d'accord avec Gérard, c'est que tout le monde a bien remarqué que Poutine s'est totalement trompé dans un premier temps, et justement avec la nomination de ce nouveau général, dit l'impitoyable, un peu comme dans les westerns, a recentré complètement sa stratégie sur le Donbass. Mais il est gêné.
Est-ce que c'est un changement de stratégie ou un changement de tactique ? Parce que
c'est un changement. Dès lors que vous changez vos axes d'attaque, c'est un changement stratégique. C'est pas simplement un changement tactique. Et il a besoin d'hommes. Et c'est la raison pour laquelle il a annoncé prématurément la chute de Marioupol. Parce qu'il a besoin des 10 000 hommes russes qui sont fixés sur le siège de Marioupol.
Je voulais rester justement sur les extraits qu'on a pu lire là, du directeur de la CIA, que j'ai trouvé très très intéressant, interrogé donc par le Congrès. Et notamment, il y a une phrase qui m'a paru très importante, qui est « Oui, c'est un défi pour nous que Poutine ne réussisse pas en Ukraine. » Ça voulait dire « S'il réussit en Ukraine, il continuera. » Et c'est donc sans doute la conviction personnelle et de Joe Biden et de ce directeur de la CIA qui est que s'il n'y a pas un coup d'arrêt rapide, alors il continuera à essayer de reconstituer non pas l'Empire soviétique, mais l'Empire tsariste. Et donc, ça explique que l'ensemble maintenant des Occidentaux se rapproche évidemment du moment clé où ils donneront plus d'argent pour essayer de gagner en Ukraine. Moyennant quoi, c'est une escalade fabuleuse.
Gérard Carrero.
Il y avait quand même, si on regarde l'histoire des dernières années, il y a quand même une démonstration qui restait à faire et qui est en train de se faire en vraie grandeur en Tchétchénie. C'est qu'effectivement, la Russie, qui est héritière de l'Union soviétique, apparaissait comme, on parlait sans arrêt de la deuxième armée du monde, etc., derrière les Américains, etc. Il n'y a rien à voir aujourd'hui en force spécifique entre ce qu'est l'armée américaine avec toutes ses composantes et l'armée russe d'aujourd'hui. Alors, on disait...
Mais même Poutine s'en est aperçu un peu tard.
Ça ne se voyait pas tellement. Bon, ils n'avaient quand même pas gagné la guerre en Afghanistan. Hein, dans les années 80, ils étaient quand même sortis d'Afghanistan. Mais ils s'étaient un peu refait la santé, si j'ose dire,
enfin, on croyait.
En Tchétchénie. Oui, c'était une guerre coloniale en Tchétchénie. C'était une province de chez eux qu'il fallait dompter. Alors là, c'est une guerre quasi-coloniale. On envoie, on met le paquet et il l'a gagné. Et puis pareil après avec la Syrie. La Syrie, ça n'était... vous mettez sur la carte du monde la Russie d'un côté, la Syrie de l'autre, la Syrie de Bachar al-Assad. Vous voyez bien qu'on peut gagner la guerre facilement, éventuellement, contre la Syrie ou d'autres pays de ce genre. Mais là, c'est la démonstration en vraie grandeur que quand il s'agit d'un pays moderne, équipé de manière moderne, parce que l'Ukraine, 37 millions d'habitants, avec les armes sophistiquées, comme on n'a jamais assez insisté pour dire que depuis 8 ans, ils ont reçu les formations et les armes les plus sophistiquées. Et du coup, ça marche. Et on s'aperçoit que là, la guerre n'est plus une guerre asymétrique entre un fort et un faible, c'est une guerre entre, disons, deux moyens. Un moyen peut-être un peu plus fort que l'autre et un moyen un peu plus faible que l'autre. Mais c'est ça qui se passe.
Oui, mais il faut voir comment Poutine est arrivé au pouvoir en gagnant la guerre de Tchétchénie, parce qu'elle avait été perdue en 1994 par l'armée russe, qui avait essayé de prendre le pouvoir dans cette république tchétchène qui voulait se libérer, exactement comme l'Ukraine. Et les combattants ont été tellement violents qu'il y a eu un cessez-le-feu. Et c'est Poutine qui l'a rompu, en prétextant, lorsqu'il y a eu l'attentat dans le cinéma, pour dire « maintenant, cela, il faut aller jusque dans les chiottes ». Et c'est quoi la guerre de Poutine ? C'est pas tellement une présence, évidemment, il y a la présence des soldats russes, où il y a eu beaucoup de morts, mais c'est le pilonnage et la destruction totale. La marque Poutine, c'est la destruction totale, comme il y a eu la destruction totale d'Alep. Et comme aujourd'hui, maintenant qu'il a perdu 20 000 hommes, c'est quoi la guerre de Poutine ? C'est d'envoyer des missiles partout qui tombent, sur les villages qui tombent à côté, qui sont sur les maisons, qui n'arrêtent pas. C'est le pilonnage systématique. Et Marioupol est détruite, donc ils pensent que c'est fini, hormis cette poche de résistance dont Poutine a dit « nous avons nos objectifs, Marioupol est libérée et nous attendons que ceux qui sont enfermés meurent de faim, de soif, parce qu'on ne laissera pas entrer une mouche ». Mais c'est ça la guerre de Poutine, c'est tout détruire.
Merci Catherine, on va marquer une nouvelle pause et puis on retrouve les grandes voix dans un instant où nous continuerons de parler bien évidemment de la situation en Ukraine.
Les grandes voix d'Europe 1. Christophe Pallé.
La suite des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrero. On parle toujours de la guerre en Ukraine. Vous nous disiez, Michel, pendant la pause, que tout détruire n'était pas un but de guerre.
Alors, c'est vrai qu'on s'interroge quand même beaucoup sur le but de guerre de Poutine. Moi, je comprends. On peut comprendre que contre l'islamisme, il est écrasé plusieurs villes. Mais là, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut se concentrer sur le Donbass, sans doute peut-être pour arriver autour du 9 mai ou peut-être un peu plus tard, à dire « vous voyez bien que j'ai gagné ».
D'avoir une victoire avant le jour de la victoire.
D'avoir une victoire avant le jour de la victoire. Bon, c'est pour ça qu'il préfère maintenant laisser mourir les Ukrainiens qui sont dans les sous-sols de l'usine, pour ne pas dire qu'il n'a pas fini de conquérir Mariupol. Bon, mais après ça, il faut reconstruire. Il faut reconstruire avec qui ? Il faut reconstruire sur des haines absolument incroyables. On entend même des Russes, des russophones de la région du Donbass être attaqués et s'attaquer eux-mêmes entre Russes venant de la Russie et Russes étant dans le Donbass. Bon, c'est un chaos absolument extraordinaire. Alors, où il s'arrête ? Où il essaye de s'arrêter sur cette bande du Donbass, et on peut souhaiter que ce soit le plus vite possible. Ou sinon, moi, je vois quand même le passage à une sorte de guerre mondiale dont, s'il veut vraiment prendre aussi l'Ukraine, d'abord, je crois que Joe Biden a raison de dire qu'il n'y arrivera pas à prendre l'ensemble de l'Ukraine, mais si vraiment il veut se déplacer à l'ouest de l'Ukraine, là, franchement, ça pose des problèmes dont on n'a pas fini de parler, ou alors on en parlera brutalement.
Non, Michel, je crois que moi-même, j'ai ouvert la boîte, si j'ose dire, de Pandore, mais il ne faut pas non plus passer d'un extrait à l'autre. Oui. On était en train de se dire, il y a encore six semaines, les Russes vont ne faire qu'une bouchée de l'Ukraine.
La guerre éclair.
La guerre éclair, trois jours à Kiev, etc. Et on ne va pas passer dans à l'autre extrémité du spectre en disant, ça y est, l'Ukraine va maintenant donner une défaite terrible aux Russes.
Non.
Donc, je pense qu'on va plutôt aller, si se vérifie ce que nous avons dit jusqu'à présent, on va plutôt aller vers, effectivement, une situation où il n'y aura pas de vrais vainqueurs sur le terrain, où il y aura des victoires, ceci, cela, et à partir de là, peut-être la table de négociation. Parce que sinon, effectivement, il n'y a plus, comme dit Michel, il n'y a plus que l'escalade nucléaire.
Tu te rends compte de la haine que ça développe entre les gens, et les faire vivre ensemble après avoir détruit.
Il y a eu déjà 50 ans de haine entre les staliniens, je parle les staliniens de Staline, ont fait un massacre des Ukrainiens dans les années 30. Ah, c'était les koulaks, vous savez, les koulaks, les paysans riches. On appelait paysans riches un type qui avait un petit lopin de terre et qui cultivait. Ouais. Bon. Eh bien, ils ont été massacrés. Il y a eu des millions de koulaks qui ont été massacrés dans tout le territoire de l'Union soviétique. Il y en a eu beaucoup en Ukraine. Et il a fallu 50 ans pour arriver à surmonter en partie.
Là,
vous voyez, effectivement, tu as raison.
D'ici à la fin du siècle, on n'y arrivera pas.
Alors, je recevais hier soir deux experts militaires sur ce plateau qui me disaient qu'en fait, Poutine n'avait pas changé son objectif, qu'il était toujours de chasser du pouvoir Zelensky et de conquérir l'ensemble de l'Ukraine. Est-ce que c'est votre conviction ?
Ça me paraît difficile.
Ça va être le cas, visiblement.
Au point où nous en sommes aujourd'hui, ça a peut-être été son objectif, ça a sûrement été son objectif quelque temps. Je pense qu'aujourd'hui, il est incapable de réaliser cet objectif. S'il arrivait à gagner la bataille du Donbass et éventuellement en partie la bataille du Sud, peut-être même sans Odessa, mais déjà Mariupol, il aurait déjà la possibilité de dire, voyez, j'ai quand même... Bon, mais si il peut imaginer aujourd'hui qu'il va conquérir, je ne pense pas une seconde, qu'aujourd'hui, il puisse conquérir toute l'Ukraine comme il en a eu peut-être l'idée au départ.
Moi, je voulais parler de ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est la Pâque orthodoxe, et de voir que c'est vrai que l'identité spirituelle de l'Ukraine, c'est d'avoir été le berceau de la chrétienté dans le monde slave. Mmh. Donc, et d'ailleurs, quand le général de Gaulle était venu à Moscou en 1966, il avait demandé à aller à la messe à Moscou et il avait demandé de faire un voyage, c'est de venir à Kiev. Voilà, pour bien marquer que c'était une province à part et c'est le berceau de la chrétienté. Mais là, on voit que 369 prêtres ukrainiens demande la destitution du Kirill.
On sent les dissensions. Là.
Oui, Kirill, qui a béni la guerre de Poutine.
C'est le collabo. Quoi,
c'est le collabo de Poutine. Or, en Ukraine, il y a 10 millions de fidèles, alors qu'en Russie, il y en a de moins en moins, pas plus de 4 millions. Et Kirill, qui vit comme un oligarque, toute sa train de vie dépend de la dîme, du denier des Ukrainiens. Vous voyez, donc il se passe en ce moment des choses et une coupure entre les deux églises qui était déjà amorcée et là qui sera définitive.
Même plus que ça, puisqu'il y a aussi l'orthodoxie grecque. Oui. Par conséquent, il y a eu deux orthodoxies pendant longtemps, mais maintenant il y en a trois. Et donc, ça divise profondément la religion. Et la religion, souvent, soutient les guerres.
Alors, il y a un point dont on n'a pas parlé du tout, mais quand même, si c'est vrai, j'entends des observateurs, même je crois chez vous hier soir, qui disent effectivement, on va découvrir... Boutcha a été une émotion internationale. Ouais. Boutcha a peut-être 50 ou 60 crimes de guerre, si j'ose dire.
Il y en a 50 documentés par les inspecteurs de l'ONU.
Mais on dit maintenant, attention, quand on va arriver à un certain nombre d'autres villes, c'est pas 50 là, c'est 50 fois, 100 fois Boutcha. Bah,
c'est ce qu'on a vu avec les images satellites de Mariupol.
Et ça, on ne peut pas, dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus le même monde que le monde de Stalingrad et de la Deuxième Guerre mondiale en termes d'information, de circulation. On ne peut pas avoir des milliers de morts tués avec les mains dans le dos, etc., assassinés. Hein, on ne peut plus faire ça. Staline pouvait faire ça à l'époque de Staline. Et d'ailleurs, j'ai oublié un truc tout à l'heure. Si les Ukrainiens ont une dent, un certain nombre d'entre eux, c'est parce que, et pourquoi ont-ils été, après, se rapprocher d'Hitler, un certain nombre d'entre eux? C'est parce qu'il y avait eu ces massacres épouvantables des communistes staliniens à leur égard. Et du coup, quand les Allemands sont arrivés, il y a un certain nombre d'Ukrainiens qui ont dit « Ah bah, après tout, c'est peut-être moins pire que les autres ». Mais je ferme la parenthèse, mais les crimes de guerre, et si on découvre qu'il y a des milliers de crimes de guerre, qu'on arrive à les documenter un certain nombre, je pense que pour Poutine, c'est une défaite déjà morale de son camp.
On va marquer une nouvelle pause et puis on se retrouve dans un instant où nous évoquerons les conséquences économiques et aussi les initiatives de paix. Sont-elles possibles?
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Christophe Pallais.
Les grandes voix d'Europe 1 consacrées pour une grande part à la guerre en Ukraine, cause trêve électorale oblige. On va parler des conséquences économiques, si vous voulez bien. On le disait tout à l'heure, l'objectif des Russes, c'est de couper les Ukrainiens de la mer Noire. C'est pas sans incidence. 30% des exportations mondiales de blé viennent d'Ukraine et de Russie. Elles transitent forcément par la mer. Ça a fait redouter une crise alimentaire grave dans des pays vulnérables. Charles Villeneuve.
Ben, principalement, de toute façon, sur le plan de la sécurité alimentaire, puisque à partir d'Odessa, c'est quasiment le port d'export de toutes les céréales et tous les produits oléagineux. On le sait, puisqu'il y a de toute façon un manque, même en France, de l'huile de tournesol, etc., etc. Mais surtout, ce qui est menacé, ce sont tous les pays, si vous voulez, qui mangent beaucoup de pain, en quelque sorte.
Oui.
Toute l'Afrique du Nord. Mais pas seulement l'Afrique du Nord, ça se prolonge en Libye, en Égypte et dans l'Afrique noire aussi. Le Mali notamment, le Sénégal, tous ces pays-là. Et il est bien évident que 30% de la production mondiale étant bloquée, à partir du moment où, les routes de l'export sont fermées, pour l'instant en tout cas, tous ces pays-là sont assez inquiets. Et l'un des calculs de Poutine, qu'il avait exposé d'ailleurs dès le début du conflit, c'est que ça allait provoquer des émeutes de la faim et vraisemblablement une émigration de tous ces pays vers l'Europe.
Vous pensez que c'était l'un des calculs de Poutine ?
Oui, il l'a dit lui-même. Ah oui. Il a dit et donné son raisonnement. Parce que vous savez, Poutine parle tous les jours au peuple russe.
Oui.
Nous n'y faisons pas évidemment attention, nous ne répondons pas. Je sais que Catherine est assez attentive souvent à ça, puisqu'elle m'en parle. Sans doute Michel aussi.
Regardons Poutine, absolument. Nous regardons Poutine. Voilà. L'air de Poutine, la mine de Poutine. S'il est content, s'il n'est pas content.
Il ne faut pas oublier aussi que
les distances avec Poutine.
Maintenant, il se met à porter de gifles avec son chef des armées.
Bon,
Mariupol. Mais en se cramponnant à la table. Vous avez vu, en se cramponnant à la table avec un pied qui bouge.
Oui, ça pose pas mal de questions sur son état de santé.
Donc, on s'interroge sur son état de santé.
Dans les conséquences économiques dont Charles vient de parler, il y en a une quand même que les Occidentaux vont avoir à trancher dans les prochains jours, c'est celle de la dépendance. Jusqu'à présent, on a fait 5 ou 6 plans de sanctions, le plus fort que l'un, que l'autre, etc. Ouais. Sauf que dans aucun de ces plans, on ne touchait véritablement au fond des choses, c'est-à-dire au robinet du gaz et du pétrole.
Il n'y a pas que les céréales, il y a le gaz.
Il n'y a pas que tout ce qu'on a fait, les banques ceci, le SWIFT cela, le machin truc. On a fait beaucoup de choses, on a fait même beaucoup de vent, je dirais, autour. Oui. Mais on n'a pas touché au robinet. Le robinet de gaz et de pétrole. Pourquoi on ne l'a pas touché? Parce qu'il y a un certain nombre de pays,
on commence à y toucher.
Oui, non, mais je veux dire, on n'avait pas
touché. Sur
le
pétrole, oui, mais pas sur le gaz.
Mais sur le gaz, on n'a pas, absolument. Il y a déjà une distinction à faire entre le gaz et le pétrole.
Oui, oui.
Sur le pétrole, on a un peu touché. Sur le gaz, on n'a pas touché. Et c'est le gaz qui alimente à 60% l'Allemagne, la Hollande, un certain nombre de pays. Donc, c'est là qu'on verra véritablement la détermination des Occidentaux. S'ils font ce qu'on a dit tout à l'heure sur le plan militaire, c'est-à-dire s'ils veulent espérer gagner la guerre, ils auront intérêt à s'aligner sur des sanctions qui leur font du mal. Qui leur font du mal. Parce qu'on n'a pas encore trouvé demain le remplacement
voilà.
de ce gaz.
Mais ce qui est très
gaz.
Intéressant, c'est la différence qu'il y a entre la conduite du chancelier Scholz, qui veut préserver l'économie de son pays, qui est sur la ligne de Mme Merkel, même s'il condamne Moscou, et l'opinion, les sondages, l'opinion allemande, qui est prête à avoir froid cet hiver, à ce que l'industrie ne tourne pas, enfin... et qui est prête à vraiment faire des sanctions très rudes pour vraiment sanctionner.
Je crois que ça va encore plus loin. Je crois que ça va encore plus loin. Je pense que ça pose des problèmes encore plus considérables pour l'ensemble du monde. Parce qu'au fond, on a eu une pandémie et une guerre. Mais au fond, qu'est-ce que ça a prouvé ? Ça a prouvé la dépendance des pays européens. Ça risque de prouver que la mondialisation n'est pas si solide que ça. Parce qu'on voit bien que toutes les chaînes de fabrication, pour des raisons ou pour une autre, sont déjà interrompues. On a eu la dépendance des masques, on a eu la dépendance des tests, et maintenant on a la dépendance des gaz. Donc à un moment donné, est-ce que ça ne va pas amener à une réflexion qui est mieux faire les choses chez nous plus chères que les attendre désespérément en cas de... Et puis...
Encourager une souveraineté industrielle.
Par exemple, le Doliprane.
J'ai trouvé dans The Economist un vrai débat. Je suis incapable mais c'est un vrai débat. Est-ce qu'il est raisonnable, dit l'éditorialiste de l'Economist, est-il raisonnable pour des sociétés libres d'avoir des relations économiques avec des autocraties ? Est-ce qu'on n'en arrive pas là, finalement ? Et donc, quand même, à une espèce de volonté partagée par tous les partis, sans doute, plus ou moins par les uns et par les autres, de souverainisme, en tout cas, de souverainisme sur ce qui nous sert. Le Doliprane, c'est vrai que c'est insupportable. Pas avoir de Doliprane, c'est insupportable pour un pays comme la France, voilà.
Loin, Michel, ce que tu dis, parce que si on fait ça... Alors, si on ne commerce plus, par exemple, avec l'Arabie Saoudite, non seulement à qui on vend une bonne partie des armes que l'on fabrique dans nos ateliers français, cet exemple-là...
Notamment les canons César.
Oui, mais je veux dire, c'est pour ça que ça bouleverse toutes nos notions. Ça bouleverse toutes nos notions.
C'est une révision générale de notre attitude.
Moi, ce qui me fascine aussi, c'est le choix des Chinois de fermer depuis deux mois, pratiquement, tour à tour, les plus grandes villes, des millions de gens. Et la vue du port de Shanghai, absolument vide, alors qu'en général, il regorge de containers. Je veux dire,
il y a 500 bateaux qui sont bloqués devant le port de Shanghai.
Le problème, c'est qu'il y a toujours les containers, mais qui ne partent pas.
Et qui ne partent pas, et que les gens qui sont enfermés dans des immeubles crient famine parce qu'ils ne sont pas nourris, qu'ils ne sont pas soignés, que tout manque. Et c'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui va sortir de ce mouvement est-ce qu'il y a une opinion chinoise qui va se révolter? Qu'est-ce qui peut se passer? Et puis, je veux dire, même, quel est le choix économique c'est tout ça pour éviter... On dit, mais il y a eu 1800 morts ou 180 morts. Enfin, un chiffre dérisoire quand on a 300 millions de Chinois. Et donc,
en
tous les cas...
Ils veulent
zéro Covid et ils n'ont pas été capables, cette grande puissance, de faire un vaccin qui, au moins... prévient, sinon empêche tout à fait quand même d'avoir le Covid.
Dire que 25 millions de Chinois enfermés, ça veut dire une économie chinoise quand même. Il faut voir.
Vous connaissez bien vos classiques.
Il faut voir les perspectives. Il faut voir les perspectives sur la chute des PIB, bien sûr de l'Ukraine qui est à peu près à 40%, mais chute du PIB aussi de la Russie. Et quand on sait que le PIB de la Russie est toute petite, on se dit que peut-être ils ne pourront pas aller même financièrement jusqu'au bout de leurs espérances. C'est-à-dire quand ils font une expérimentation de ce Satan 2, enfin je ne sais pas comment on appelle ce...
Le Sarmat.
Sarmat, oui. Mais Satan 2, parce que je trouve que Satan c'est quand même mieux... Au fond,
oui, alors il ne faut pas diaboliser le Satan. Hein. Le nom, c'est plutôt le nom russe de l'OTAN, apparemment.
Ils perdent beaucoup d'argent pour faire une expérimentation qui n'a pas beaucoup de sens.
Ça, c'est ce qu'on appelle montrer ses muscles. Oui. C'est de la gesticulation, de toute façon, par rapport justement au résultat de la guerre. Mais en ce qui concerne les conséquences économiques, moi, je trouve qu'il faudrait s'interroger sur ce que doit craindre le consommateur français, en réalité. Et on n'en parle pas assez, et on lit un peu n'importe quoi. C'est surtout, d'ailleurs, le prix de l'essence. C'est là-dessus que les Français... c'est vrai qu'en même temps, le gouvernement a bloqué...
Alors, on ne parle pas trop du gouvernement aujourd'hui, mon cher Charles.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, juste
on a bien dit le
cette
gouvernement.
Allusion,
oui.
le consommateur français est protégé des conséquences directes de la crise ukrainienne. La principale répercussion, je viens de le dire, c'est le coût de l'essence. Mais en ce qui concerne, par exemple, les prix alimentaires, il faut faire attention, je le disais juste quelques minutes auparavant, à ce qu'on lit. Par exemple, sur les pâtes, on dit de toute façon qu'automatiquement, compte tenu du boycott, en quelque sorte, du blocage de l'export des céréales,
que le tarif des spaghettis va augmenter.
Oui, eh bien, c'est complètement faux. Ouais. Les pâtes sont fabriquées à partir du blé dur.
Tout à fait.
Le blé ukrainien et russe est du blé tendre.
Ouais.
Bon, non, mais c'est vrai, quant à l'impact sur le prix du pain, il peut être que modéré. Il faut savoir qu'on ne dépend qu'à 7% justement de la fourniture ukrainienne et russe. Donc, il faut faire attention de noircir à plaisir le tableau.
Alors, rien n'empêche le Doliprane de
L'huile de tournesol, vous pouvez en chercher dans les rayons des magasins.
C'est la pénurie provoquée, oui. On va marquer une dernière pause et puis on parlera notamment du boycott des artistes et des sportifs russes. Et un dernier point sur Boris Johnson. A tout de suite sur Europe 1.
Christophe Pallais.
10h53, la suite et la fin des grandes voix avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotard. On va parler à présent d'une autre conséquence de la guerre en Ukraine. On l'a appris cette semaine, Wimbledon a décidé d'interdire son tournoi sur gazon aux joueurs et joueuses russes. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de boycotter les sportifs et par extension les artistes?
Moi, je trouve ça nul, personnellement, cette décision.
C'est un avis tranché, Gérard.
Je trouve ça nul. Oui, voilà, je m'arrêterai là, tiens, d'ailleurs, parce qu'on a peu de temps.
Non, allez-y. Justifiez,
argumentez. Je dis parce que c'est beaucoup de ces gens qu'on va sanctionner, je veux dire, directement ou indirectement, beaucoup de ces gens sont d'ailleurs hostiles à la guerre, hostiles à l'annexion de l'Ukraine, etc. Et on va en faire, quelque part, c'est une attitude, on va en faire des victimes de choses sur lesquelles ils n'ont jamais eu à trancher. Je trouve ça con, quoi.
Pardon. Dans le cadre du domaine MEDEF, Charles Villeneuve.
Oui, c'est vrai ce que tu dis. Le nouveau numéro un mondial du tennis est russe, Medvedev. Il a supplanté Djokovic, qui joue moins de tournois, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans
ce détail. Parce qu'il y a un deuxième Medvedev, je crois.
Et qui lui-même dit ne souhaite qu'une chose, c'est promouvoir la paix. Cela étant, il faut voir aussi... que l'un des objectifs de ce boycott, c'est de réduire la sphère d'influence de la Russie et ses partenaires financiers qui arrosent depuis des lustres le sport mondial, sans pour autant boycotter les sportifs. C'est ça l'ambiguïté de cette affaire de boycott. Parce que les premières victimes du guerrier de Moscou, ce sont justement ces athlètes.
Et il faut peut-être faire un distinguo entre des cas individuels d'athlètes et des équipes nationales.
Parce que les oligarques, ont très astucieusement investi. C'est le cas, par exemple, d'Abramovitch, le propriétaire du club de football de Chelsea, dont les biens donc, ont été saisis et qui sert d'intermédiaire, d'ailleurs, dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie. Et ce sont eux, surtout, qui ont été très actifs pour étendre ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire le pouvoir par le sport. Comment alimenter la propagande de la Russie par rapport aux grandes organisations internationales?
Michel Cotta, vous voulez dire aussi.
Il n'y a pas le sport seulement. Moi, je suis très, très touchée par le nombre de chefs d'orchestre, par exemple, russes, qui sont en France et qui ne peuvent pas dire mot parce que leur famille est à Moscou. Mais on les sait, on les connaît. Et quand on voit un hommage de tout l'orchestre, hein, ce qui s'est passé récemment dans une ville de province, tout l'orchestre s'est levé alors que le chef russe avait été retiré pour applaudir ce chef russe, montre bien que quand même, dans certains domaines, il y a des distinguos à maintenir. C'est impossible d'un seul coup de bannir tous les chefs russes. Quand même, l'art et le sport surtout pour des gens dont on sait que s'ils sont tellement sportifs et tellement artistiques, ils ont quelques reculs vis-à-vis de Poutine. Je trouve que c'est d'une injustice incroyable.
Vous évoquiez, Michel, les chefs d'orchestre, la Biennale de Venise aussi. Bannit les représentants russes à compter d'aujourd'hui.
Ouais. Ben oui, parce qu'ils sont des représentants officiels, ça veut dire forcément liés au... Voilà, c'est pas...
Oui, mais
c'est
quand
pas...
c'est des artistes, non. Mais...
Moi, je reviens juste sur Medvedev, qui vit en France, qui parle un français, mais impeccable, qui est ultra sympathique. Je suis peut-être sensible, justement, au fait qu'il parle si bien le français et qu'il vit en France et qu'il est complètement intégré. Simplement, il a gardé sa nationalité russe. Faut-il lui fermer les portes de tous les grands tournois simplement à cause de cette fidélité à l'âme russe, à la philosophie, à la culture russe? Je trouve ça nul.
Évidemment non.
Oui,
évidemment.
D'autant qu'on peut opposer la culture russe justement à ce qu'en fait Poutine.
C'est comme les Italiens, dans certains peuvent suggérer de ne plus écouter Tchaïkovski, Rachmaninov. Enfin, voilà, c'était la folie.
Bien voilà un sujet qui vous a tous mis d'accord. Boris Johnson aura fait les frais de notre spécial Ukraine. C'est fini pour...
On le retrouvera
peut-être dès la semaine prochaine avec Pierre. Ouais. Merci en tout cas à tous les quatre. Et on salue Laurent Mariotte que vous retrouvez pour la table des bons vivants. Bonjour Laurent.
Bonjour Christophe et bonjour,
bonjour
les gens.
Bonjour Laurent.
C'est le printemps les amis. Alors on va vous aider à accorder les asperges, les petits pois et les premières fraises. Et on va aussi manger sain sans se ruiner. Et puis l'humoriste Jeff Panaclock sera des nôtres. A tout de suite.
A tout de suite Laurent. Bonne émission.